écrit à tâtons la nuit. Je rentre, Goudeloup est mort, voyage manqué. 26 décembre. 10 jours, je ne suis resté absent que 10 jours, et il me semble qu'avec la multitude d'images, de silhouettes, d'impressions confuses et terribles que je rapporte de mon voyage si court, il y aurait de quoi remplir plusieurs existences. Maintenant que me voici revenu, et qu'à l'étroit de mon ermitage tous ces souvenirs me hantent et me tourmentent, je vais essayer de les écrire uniquement pour m'en débarrasser. Parti la nuit du 16, nuit très froide, sans lumière au ciel, éclairée du sol blanc de givre. Les arbres cristallisés ressemblaient tous à de grandes aubépines fleuries avant la venue des feuilles. Nous traversons un champ prosé lugubre et silencieux comme le givre qui tombait et s'amassait sur ses toits froids au lieu de fondre doucement au bord des gouttières à la chaleur des feux allumés. Pas de Prussien sur l'horizon et c'est un bonheur car dans la grande plaine nue, nos deux silhouettes étaient très distinctes. Je trouve mon bateau dans une petite anse cachée entre les rives. C'est une Norvégienne très légère. Les rames garnies de linge, nous nous embarquons sans bruit, seuls sur la rivière, heurtés de temps en temps par des glaçons qui glissent à fleur d'eau comme des blocs de cristal. Bien des fois, les années précédentes, je m'étais embarqué par des nuits aussi sombres, aussi froides, pour aller poser ou visiter mes verveux. Mais quelle vie s'agitait alors sur la rivière autour de moi ? Une vie un peu mystérieuse, rêveuse, s'imprégnant de silence au sommeil environnant. Les longs trains de bois, avec leurs feux d'avant et d'arrière, des silhouettes debout près du gouvernail, descendaient lentement vers Paris, traversant toute cette ombre champêtre pour entrer au jour levant en plein Bercy, dans des quartiers bruyants et populeux. Sur la rive, des wagons passaient. L'express de nuit se déroulait aux sinuosités de la voie comme un serpent aux yeux de feu. Et l'on rêvait à toutes les raisons, lugubres ou joyeuses, qu'avaient ces gens de se déplacer ainsi. De loin en loin, au bord du fleuve qui mouillait presque leurs murs, des maisons d'éclusiers, des baraques de passeurs, des auberges pour la marine, reflétaient dans l'eau vague la lueur de leurs vitres troublées. Aujourd'hui, rien de tout cela. Nous avions devant nous comme une rivière nouvelle, noire et déserte, dérangée par tous ces ponts brisés qui changeaient les courants. Cependant, je menais assez bien notre petite Norvégienne, donnant à peine quelques coups d'aviron, juste assez pour tenir le milieu de l'eau et éviter les îles submergées, distinctes à des pointes de saule. « Ça va bien », me disait tout bas Goudeloup. À ce moment, le bruit d'une rame tombant dans un bateau nous arriva du bord, puis une forte voix méridionale cria à travers la nuit « Allons, passeurs, dépêchons !» « C'est le médecin de Draveil, » murmura mon compagnon. J'avais reconnu, moi aussi, cette voix de brave homme qu'on entend jour et nuit sur toutes les routes du pays, toujours encourageante et pressée. Comment se trouvait-il là? Il était donc resté à Draveil. J'avais envie de lui crier « Bonsoir, docteur !» Mais une pensée me retint. Une heureuse pensée, ma foi, car presque aussitôt, nous croisions un lourd bachot traversant d'un bord à l'autre avec une lanterne à l'avant. Et j'aperçus, à côté du bon docteur R et de son éternel chapeau de feutre mouillé à toutes les pluies de Seine-et-Oise, des casques luisants. Nous étions, par bonheur, hors du rayon de leur lanterne qui rendait plus obscure l'ombre où notre bateau glissait et nous passâmes inaperçus. Un autre danger, non moins grave, nous attendait un peu plus loin. Le pont du chemin de fer, dont on avait fait sauter 3 arches et qui encombrait la rivière de ses gigantesques débris. Je ne sais vraiment pas comment nous pûmes, sans nous engloutir et nous briser, franchir à l'aveuglette ce sinistre barrage. À Port-Courcelles, même transe. Les saules noueux, énormes, des deux îles, formaient dans la nuit autant d'écueils que nous eûmes la chance d'éviter. Enfin, voici Ablon et son écluse. D'ici, le canon de Paris, distinct, terrible, nous envoie à chaque minute l'éclair rougeâtre de son bruit de tonnerre. Nous devions nous y attendre, l'écluse est fermée. Heureusement, notre barque est légère et nous pourrons à nous deux, comme je l'ai fait tant de fois, la hisser sur la berge et passer de l'autre côté du barrage. Nous abordons à ce petit escalier où l'aubergiste d'Ablon dépouille ses anguilles les dimanches d'été où les pêcheurs à la ligne s'installent, inondés du soleil de la pointe de leurs chapeaux canotiers, à leurs pieds chaussés d'espadrilles. C'est étonnant comme le danger change l'aspect des choses. Arrivé aux dernières marches de l'escalier, j'aperçois à 10 pas de moi, dans le noir, une sentinelle se promenant de long en large sur le quai. Plus bas, la maison d'écluse, transformée en poste prussien, a toutes ses fenêtres allumées. Je veux vite redescendre, rembarquer, gagner l'autre rive. Mais Goudelou ne m'écoute pas. Ses yeux restent obstinément fixés sur cette ombre qui se découpe dans le brouillard et marche en sifflant au-dessus de nos têtes. J'essaie de l'entraîner, il m'échappe, fait un bond. J'entends un bruit sourd, une plainte étouffée, des buffleteries secouées et la chute lourde d'un corps. 22, dit Goudelou, glissant tout essoufflé le long du talus. Mais le malheureux soldat, qu'il vient de laisser étendu sur la berge, a trouvé avant de mourir la force de décharger son fusil. Ce coup de feu met les deux rives en émoi. Impossible d'aborder. Nous gagnons vite le milieu de l'eau et nous remontons à force de rame. C'est comme un mauvais rêve. Le vent, le courant, tout est contre nous. Et pendant que de l'écluse une barque se détache, éclairée d'un falot qui plonge, reparée, nous guette, vient droit de notre côté, un autre bateau s'approche en sens inverse. « À la drague !» me dit Goudelou dans l'oreille. Près de nous, amarré à 15 ou 20 mètres du rivage, un bateau dragueur dressait au-dessus de l'eau sa masse sombre, ses tambours et sa chaîne à godet pour tirer le sable. La Seine, très haute, l'inondait à demi et brisait son avant avec un grand bruit. Nous abordons, mais dans notre précipitation à nous réfugier sur cette épave, nous oublions de retenir notre Norvégienne qui s'en va à la dérive avec les couvertures, les provisions qu'elle contenait. C'est ce qui nous sauva. 5 minutes après, un hurrah formidable nous apprit que les Prussiens venaient de trouver notre barque. La voyant vide, ils durent nous croire noyés, engloutis, car au bout d'un moment, les falots regagnèrent le rivage et toute la rivière rentra dans son silence et dans sa nuit. C'était une vraie ruine, cette drague où nous nous trouvions. Singulier abri, craquant et criant de partout, et que la rivière battait avec rage. Sur le pont couvert de débris de bois, d'éclats de fonte, le froid était insoutenable. Nous dûmes nous réfugier dans la chambre de la machine à vapeur, où l'eau, par bonheur, n'arrivait pas encore. Il s'en fallait de bien peu, car à plusieurs endroits, les parois de la chambre étaient crevées presque à hauteur des vagues, et nous nous trouvions éclairés par le reflet plombé de la nuit sur l'eau. Quelles heures sinistres nous avons passées là! La faim, la peur, un froid terrible, où nos membres étaient pris d'un engourdissement de sommeil contre lequel il fallait lutter. Tout autour, l'eau bouillonnait, le bois gémissait. La chaîne à godet grinçait dans sa rouille, et là-haut, au-dessus de nos têtes, quelque chose comme la toile d'un drapeau trempé claquait au vent. Nous attendions le jour avec impatience, ne sachant pas au juste quelle distance nous séparait de la terre, ni comment nous nous y prendrions pour l'atteindre. Dans le demi-sommeil, avec cette préoccupation de sauvetage, les secousses de la drague, le bruit d'eau qui nous entourait, j'avais par moments l'impression d'un lointain voyage et d'une nuit de tempête en pleine mer. Quand, par les trous de la chambre noircie et déchirée comme après un bombardement, nous vîmes la rivière pâlir sous la lumière terne d'un petit jour d'hiver, nous essayâmes de nous orienter. Les coteaux de Juvisy, sortant du brouillard que les arbres hauts perçaient de leur sommet mort, dominaient la rive la plus éloignée. De l'autre côté, à 25 ou 30 mètres de la drague, les plaines rases et nues qui mènent à Draveil s'étendaient sans un soldat. Évidemment, c'était par là qu'il fallait fuir. La perspective d'un bain froid en plein décembre dans cette eau profonde, écumeuse, sillonnée de courant, était assez effrayante. Heureusement, la chaîne en fer, qui attachait le bateau dragueur au rivage, tenait encore à son anneau et nous avions la ressource de nous y cramponner et de nous faire guider par elle. Pendant que nous délibérions, un coup de canon, assez rapproché, partit des hauteurs de Juvisy. Le sifflement d'un obus, sa chute dans l'eau près de nous, suivirent presque aussitôt. Quelques secondes après, avant que notre étonnement fût diminué, un second obus tomba près de la drague. Alors, je compris pourquoi ce drapeau, ces débris de bois, ces éclats de fonte et cette odeur de poudre brûlée que nous avions remarquée dans la cabine. Le dragueur abandonné servait de cible aux Prussiens pour l'exercice du canon. Il fallait partir bien vite. Le froid de l'eau, son danger n'était plus rien. En avant, je prends la chaîne à deux mains et je m'affale à la rivière, Goudelou derrière moi. Les doigts brûlés au frottement du fer, nous avancions lentement, paralysés par le courant, l'eau glaciale. Un nouveau coup de canon vint doubler nos forces. Gare, voilà l'obus. Cette fois, il tombe en plein sur l'avant blindé de la drague, éclate et nous couvre de débris. J'entends un grand soupir derrière moi. Non, jamais je n'oublierai le mouvement suprême de cette chaîne que j'ai senti s'agiter, se débattre une seconde, puis remonter sur l'eau vivement, lâchée, abandonnée, légère entre mes mains. Je me retourne, personne, rien qu'un paquet de sang que la rivière emportait. Le malheureux avait dû être frappé à la tête, tué sur le coup. Un grand découragement me prit. Ce compagnon massacré près de moi, mon impuissance à le secourir. Pour rien, j'aurais lâché la chaîne, moi aussi. L'instinct de la vie l'emporta, et quelques minutes après, j'abordai le rivage. Mais je ne pus aller bien loin. Au bout de 10 pas, succombant à l'émotion, à la fatigue et à ce froid terrible qui me pénétrait par tous mes vêtements mouillés, je me laissai tomber au bord de la route, dans l'herbe sèche d'un fossé. Le trot bien connu d'un cheval, le roulement d'un vieux cabriolet et la bonne voix du docteur R me tirèrent de ma torpeur. « Comment, c'est vous ? Qu'est-ce que vous faites là ?» En un clin d'œil, il m'eut enveloppé dans son manteau, enfoui dans la paille sous le tablier de la voiture, et nous voilà roulant vers Draveil, où le brave homme avait transformé sa maison en ambulance. Du cabriolet, je passai dans la remise. Là, des vêtements secs, quelques grocs brûlants m'eurent vite réchauffé. J'y restai jusqu'au soir sans oser remuer, comprenant bien, quoique le docteur ne m'eût rien dit, le grand risque qu'il courait à m'avoir recueilli. La maison était pleine de soldats, d'infirmiers. Des bottes sonnaient sur le pavé de la petite cour. Puis, tout autour, de gros rires, des heurts de sabre, ce rude parler allemand, accentué encore d'insolence. J'entendais cela les yeux fermés, engourdis de bien-être, avec un vague souvenir du danger passé, la sensation froide de la rivière et le soupir du pauvre Goudelou restait navrant à mes oreilles. À la nuit, le docteur vint me délivrer et me conduisit dans la chambre de ses petits-enfants qu'il avait fait partir à l'approche des Prussiens. C'est là que je rouvris les yeux le lendemain matin. Après les horribles scènes de la veille, ces 3 lits berceaux, entourés de rideaux blancs, les jouets d'enfants, traînant pêle-mêle dans la chambre avec des livres de classe, jusqu'au vague parfum de pharmacie s'exhalant d'un placard où le docteur enfermait des drogues, tout était bien fait pour me calmer, détendre mes nerfs surexcités. Un coq chantait dans une cour voisine, un âne se mit à braire. Le village commençait à s'éveiller. Tout à coup, une sonnerie, détonnante au milieu de ces bruits tranquilles, me rappela la triste réalité. C'était des allées et venues, des portes secouées. Je m'approchai de la fenêtre. La maison du docteur regarde la rue, par-dessus les plates-bandes du jardin étroit qui la précède. Elle est connue de tout le monde dans le pays, et la sonnette à boutons de cuivre, qui se détache sur le mur blanc repeint à neuf, les meubles du petit salon, entrevus au rez-de-chaussée, lui donnent un aspect à part de bourgeoisie modeste. Cachée derrière les persiennes fermées, je voyais la rue noire de bérets alignés, s'appelant, se numérotant, prêts à partir. Parmi ces bérets, quelques casques bavarois apparaissaient. C'étaient des maréchaux de logis courant de maison en maison, inscrivant des numéros à la craie sur les portes, préparant les logements des troupes qui allaient arriver. Bientôt, le régiment qui partait s'ébranla au son des tambours, pendant qu'à l'entrée du pays, du côté opposé, les clairons bavarois s'approchaient à grand bruit. Depuis 3 mois, il en était ainsi dans ce malheureux village. La paille des campements n'avait pas le temps de froidir entre le départ d'un régiment et l'arrivée d'un autre. Le docteur, qui venait d'entrer, me fit quitter la fenêtre. « Prenez garde, monsieur Erlemont, ne vous montrez pas. Il y a à la commandature un état dressé des quelques habitants restés dans le pays et on nous surveille tous. Passé 8 heures du soir, personne, excepté moi, n'a plus le droit de sortir. on a tant assassiné des Prussiens aux environs. Draveil en porte la peine. Nous sommes réquisitionnés 3 fois plus que les autres. Au moindre mot, on emprisonne. À la moindre révolte, on fusille. Nos malheureux paysans sont terrifiés. Ils s'espionnent, se dénoncent les uns les autres. Et si l'un d'eux s'apercevait que je cache quelqu'un chez moi, il serait capable, pour s'épargner une réquisition, d'aller prévenir la commandature. Ce qui nous attendrait tous les deux, je m'en doute. Il se méfiait tellement de mes imprudences, ce pauvre docteur, que tout le temps de mon séjour chez lui, il garda la clé de ma chambre dans sa poche. Les persiennes et les fenêtres fermées me donnaient un jour de cachot juste ce qu'il fallait pour lire. J'avais des ouvrages de médecine, quelques traductions dépareillées de la grande collection Pankouk et, de temps en temps, un numéro du journal français que les Prussiens publient à Versailles. Cela aussi, c'était du français de traduction. Et quelle lecture irritante que ces forfanteries tudesques, nos défaites, vraies ou fausses, racontées en ricanant, avec de grosses plaisanteries gauches et lourdes. Quand j'en avais assez de lire, par la fente des persiennes, je regardais la rue. Une vraie rue de bourg, les maisons alignées devant le pavé du trottoir, précédées de petits jardins et montrant, dans l'espace qui les sépare entre elles, des treillis de branches, le tronc d'un gros orme, des horizons de plaines et de vignes qu'elles cachent à peine de leur toiture basse. Puis des hangars, des écuries, une fontaine jaillissant d'un vieux mur, un grand portail de ferme à côté de la maison du notaire, blanche, proprette, ornée de panonceaux. Sur tout cela, la souillure de l'occupation. Des tricots de laine séchant sur les grilles, sur les persiennes, de grosses pipes à toutes les fenêtres, et des bottes. Jamais je n'avais tant entendu de bottes. En face de mes croisées se trouvait la commandature. Tous les jours, on amenait là des paysans poussés à coups de crosse de fusil, de fourreaux de sabre. Les femmes, les enfants venaient derrière en pleurant. Et pendant qu'on entraînait l'homme à l'intérieur, eux restaient sur la porte à expliquer leur affaire aux soldats qui écoutaient, dédaigneux, les dents serrées ou riant d'un gros rire bête. Nul espoir de pitié ou de justice. Tout au bon plaisir du vainqueur. Ils le savaient si bien, ces malheureux villageois, qu'à peine osaient-ils sortir, se montrer, et quand ils se hasardaient dans la rue, c'était navrant de les voir s'en aller le long des murailles, l'œil de côté, l'échine basse, obséquieux et vils comme des Juifs d'Orient. Quelque chose de bien navrant aussi, c'était ces voitures d'ambulance arrêtées devant notre porte, dans le vent, le froid, la pluie, la neige. Ces gémissements de blessés, de malades descendant de voitures, abandonnés aux bras qui les portaient. Le soir venu, pour clôturer ces jours d'affreuse mélancolie, la retraite prussienne sonnait sous les ormes défeuillées, avec ses mesures lentes, espacées, et ses 3 dernières notes jetées comme des cris d'engoulevent à la nuit qui s'approchait. À ce moment, le docteur entrait dans ma chambre, crotté, éreinté. Il m'apportait à manger lui-même et, avec sa bonhomie habituelle, me racontait ses courses, ses visites, ce qu'il entendait dire de Paris, de la province, les malades qu'on lui amenait, ses disputes avec le major prussien qu'on lui avait adjoint pour diriger l'ambulance et dont le pédantisme berlinois l'exaspérait. Nous parlions bas, tristement. Ensuite, le brave homme me disait bonsoir. Resté seul, j'ouvrais ma fenêtre doucement et j'aspirais l'air 1 minute. Malgré le grand froid, cela me semblait bon. Dans le sommeil, le pays redevenait lui-même, reprenait son aspect des temps heureux. Mais bientôt, le pas d'une patrouille, la plainte d'un malade, le bruit du canon tonnant à l'horizon, me ramenaient vite à la vérité et je rentrais dans ma prison, plein de rancune et de colère. Au bout de quelque temps, ce régime cellulaire au milieu de l'occupation me devint insupportable. Ayant perdu tout espoir de pouvoir entrer dans Paris, je regrettais mon ermitage. Là, au moins, j'avais la solitude, la nature. Je n'étais pas tenté, comme ici, de me mêler aux injustices, aux brutalités, aux vexations perpétuelles de la rue, au risque de compromettre mon hôte. Je résolus de partir. À ma grande surprise, le docteur n'essaya pas même de me détourner de mon projet. « Vous avez raison, me dit-il tranquillement, vous serez plus en sûreté là-bas. » Depuis, en y songeant, j'ai toujours pensé que quelques voisins avaient dû m'apercevoir derrière mes persiennes et que mon hôte, sans vouloir en convenir, craignait une dénonciation. Nous décidâmes donc que je quitterais Draveil le lendemain, de la même façon que j'y étais entré. La nuit venue, je descendis dans l'écurie. Je me blottis dans la paille du cabriolet, le manteau du docteur par-dessus, et en route. Le trajet se fit sans encombre. Tous les 100 ou 200 mètres, une guérite bâtie aux frais de la commune se dressait sur le bord du chemin. « Werda !» nous criait la sentinelle en armant son fusil. Le docteur répondait « Lazaret !» Et le petit cabriolet continuait son roulement fêlé à travers les pierres. À la lisière de la forêt, il s'arrêta. La route était déserte. Je sautai à terre vivement. « Prenez ceci, me dit l'excellent homme en me tendant un panier rempli de vivres et de bouteilles. Enfermez-vous et ne bougez plus. J'irai vous voir bientôt. » Là-dessus, il fouetta sa bête et je me lançai dans le fourré. Un quart d'heure après, j'étais rentré à l'ermitage. 3 janvier. Il tombe depuis quelques jours une neige fine en tourbillon serré. La forêt en est couverte. Autour de moi, le silence est tel que j'entends le bruissement léger des flocons qui s'entassent. Impossible de sortir. Je regarde tomber du ciel jaune cette neige qui blanchit tout. Des oiseaux affamés viennent jusqu'à mon seuil. Des chevreuils se sont réfugiés dans l'écurie, à la place de mon pauvre colaquet, dont je n'ai plus de nouvelles. 10 janvier. Visite du docteur. Les nouvelles sont mauvaises. Paris, toujours enfermé, la province en désastre. Et les vainqueurs, fatigués d'une victoire si lente, multiplient les humiliations, les brutalités. À Draveil, la nuit de Noël, 5 ou 6 Bavarois attardés à boire dans un cabaret avec le vieux Rabot, l'ancien garde-champêtre, lui ont cassé la tête d'un coup de revolver. Le frère du malheureux qui habitait en face accourt au coup de feu et tombe à son tour, frappé à mort. Un autre homme de la même famille est blessé grièvement. Autant il en serait venu, autant ils en auraient massacré, les misérables. L'affaire ayant fait grand bruit, un semblant d'instruction a été commencé. Et le tout s'est terminé par une indemnité de 40 000 francs que la commune de Draveil est condamnée à payer aux Bavarois. 15 janvier. Ce matin, l'état-major du prince de Saxe a fait une grande battue de gibier dans la forêt. En entendant la fusillade si près de moi, j'ai eu une émotion terrible. Je croyais à l'arrivée de quelque avant-garde française. Mais, des fenêtres de l'atelier qui domine tout le bois, j'ai aperçu, entre les branches défeuillées, des nuées de rabatteurs en béret saxon, courant et criant dans les fourrés, pendant que des chasseurs dorés et empanachés s'embusquaient à chaque tournant d'allée. Au rond-point du gros chêne, un immense feu de bivouac flambait devant une tente. C'est là que les chasseurs sont venus déjeuner au son des fanfares. J'entendais le bruit des verres, des bouteilles débouchées, des hurrahs des buveurs. Ensuite, le massacre des chevreuils et des faisans a recommencé. Ah, si le père Guillard avait été là, lui qui savait si bien le compte de son gibier, surveillait les couvées, les terriers, connaissait l'allée favorite de ses chevreuils, comme il aurait souffert de voir tout ce saccage. Les ailes tournoyaient en l'air, ne sachant plus où voler pour éviter les coups de fusil. Les lièvres, les lapins éperdus partaient entre les jambes des chasseurs. Et, au milieu de la déroute, un chevreuil blessé est venu se réfugier dans la cour de l'ermitage. Les yeux des bêtes chassées ont une expression d'étonnement et de tendresse qui est vraiment navrante. Celle-là me faisait pitié, serrée à la margelle du puits, flairant le vent, marquant le sol de ses pattes sanglantes. J'en ai eu un redoublement d'indignation qui se précipite avec des voracités de sauterelle sur la France vaincue, ses vignes, ses maisons, ses blés, ses grands arbres, et le pays, une fois rasé, extermine jusqu'au gibier pour n'y rien laisser de vivant. Je n'oublierai jamais cette chasse à côté de la guerre, sous ce ciel bas et sombre, dans ce paysage de frimas, où l'éclair d'or des casques et des corps passant entre les branches, les galops, les alalis, faisaient penser aux chasseurs noirs des ballades allemandes. Au jour tombant, des files de charrettes sont venues relever au bord des routes tout ce gibier pitoyable et gémissant. C'était sinistre comme un soir de bataille. 19 janvier. On s'est battu toute la journée sous Paris. Seulement, le fracas des mitrailleuses ne m'arrivait pas aussi distinct que le 2 décembre. J'ai trouvé qu'il y avait dans le bruit de cette bataille lointaine je ne sais quelle impression de lassitude et de découragement. 30 janvier. C'est fini, Paris se rend. L'armistice est signé. Dernier feuillet. J'arrête ici ce journal où j'ai essayé de faire tenir les impressions de mes 5 mois de solitude. Aujourd'hui, je suis retourné à Draveil dans la voiture du docteur, mais sans me cacher cette fois. Les routes étaient pleines de paysans qui reviennent chez eux. Plusieurs se sont déjà remis à la terre. Tous les visages sont tristes, mais on n'entend aucune plainte, fatalisme ou résignation. Dans le village, encore occupé, les Prussiens promènent leur triomphe, insolent de tranquillité. Ils m'ont cependant paru moins féroce avec les habitants. J'en ai vu qui s'en allaient en tenant des enfants du pays par la main. Il y avait là comme un commencement de retour à leur foyer délaissé, à leur vie sédentaire troublée par cette longue guerre. Le soir, en rentrant, j'ai aperçu sur le seuil de la maison du garde la mère Guillard en grand deuil, presque méconnaissable. Pauvre femme, son mari mort, son foyer en ruine. C'est le malheur complet. Je l'entendais pleurer en essayant de mettre en ordre les débris du ménage. Maintenant, tout se tait dans l'ermitage. La nuit est claire, l'air très doux. Certainement, le printemps est déjà sous cette neige qui commence à fondre. La forêt ne va pas tarder à bourgeonner et je m'attends à voir bientôt des pointes d'herbe soulever les feuilles mortes. Là-bas, des grandes plaines tranquilles montent une buée pareille à la fumée d'un village habité. Et si quelque chose peut consoler de la guerre, c'est ce repos de la nature et des hommes, ce calme universel d'un pays meurtri qui répare ses forces dans le sommeil, oubliant la récolte perdue pour préparer les moissons à venir.